La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Grand événement à venir sous peu, le 50e anniversaire du Jazz Band Bowl.
Alors vous vous demandez bien ce que c'est que le Jazz Band Bowl. Est-ce que c'est du football américain ou est-ce que c'est un bal particulier? Eh bien oui.
Exactement, c'est un morceau de jazz d'abord qui s'appelle At the Jazz Band Bowl, qui remonte très 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 vieux et qui a servi de titre à une manifestation fondée en 1964 par une association qui s'appelait La Fagenaud. Le Jazz Band Bowl était un endroit absolument extraordinaire et je crois que le mieux c'est de passer la parole à l'envoyé spécial du Nouvel Ops dans cette volcanique manifestation. Et là nous sommes au tout début et nous étions à la mairie du 5e arrondissement, là où d'ailleurs le concert du 50e anniversaire va avoir lieu le 29 novembre prochain.
Ça commence par un défilé rue Soufflot. Vous savez, c'est le 5e arrondissement, pas loin du Panthéon. Au son de South Rampart Street Parade, avec puissant glissando que ponctuent des coups de grosse caisse, les néo-orléanais de France, et d'ailleurs, se dirigent en dansant vers la place du Panthéon. À leur tête, pleurant presque de joie, Gérard Comte, président de la Fagenaud, vit sa nuit de l'année. Le Jazz Band Bowl, cette invraisemblable réunion qui se déroulera cette année pour la 5e fois à la mairie du 5e arrondissement. Alors, au milieu des sandwichs et des coca, dans une bousculade effroyable, se succéderont toute la nuit, sur la scène, les orchestres de jazz vieux style. Ils viennent de partout, ils sont tous amateurs et ils ne sont pas payés. C'est un principe. Le prix d'entrée, à l'époque 10 francs, c'est pas grand-chose. Le prix d'entrée sert uniquement à couvrir les frais de salle et de déplacement. Pour les amoureux de la musique Nouvelle-Orléans, le Jazz Band Bowl représente maintenant l'indispensable tremplin, l'examen de passage espéré. Il n'y a pas d'audition préalable. Chaque formation se présente à ses risques et périls. Certains groupes se font jeter au bout de 2 minutes, d'autres remportent un triomphe. Au premier Jazz Band Bowl, en 64, il y avait 6 orchestres. À celui de cette année, il y en aura 19. Certains répètent pendant des mois leur passage sur scène et dévoilent leurs intentions la veille du grand jour. Il me faut 12 sièges parce que je vais reconstituer l'orchestre de Jack Goldkett. Cette année, on attend avec une certaine inquiétude les Whoopies de Berlin, blouson noir, à peine repenti, qui interprètent des morceaux d'un quart d'heure sur tempo d'enfer et qui font penser aux hordes d'Attila.
Vous voyez le tableau. Et figurez-vous que l'année d'après, étant donné la bousculade, le surbooking complet, enfin le succès de la manifestation, il a fallu déménager à la mutualité. Ce que vous allez entendre maintenant, ça découle simplement de nos propres souvenirs de cette manifestation, souvenirs marquants qui ne sont pas forcément ceux des autres. Si d'autres gens nous écoutent, qui ont connu ça et qui ont d'autres souvenirs, eh bien, ils n'ont qu'à faire une émission eux-mêmes, il n'y a pas de raison.
Et ils nous envoient tout.
Ils nous envoient où? Ils nous envoient ce qui... Voilà. Nous allons commencer la musique par un orchestre absolument emblématique du Jazz Band Bowl pour nous, qui a d'ailleurs été formé l'année même du Jazz Band Bowl, dont les gens ont connu une carrière généralement exceptionnelle par la suite. Cet orchestre s'appelait les Jazzomaniacs. Voici Victory Stride.
Thank you.
vous a un tout petit peu évoqué le fondateur de ce Jazz Band Ball, Gérard Comte. Il faut qu'on vous en dise un tout petit peu plus.
Ah oui, c'était un sacré personnage.
Imaginez une sorte d'anarchiste, de libertaire, de type qui veut jamais être dans les clous. C'était ça, Gérard Comte. Et en même temps, une espèce de joie de vivre, un désir de faire des choses, et puis cet amour extraordinaire pour le jazz, que maintenant on appelle traditionnel, que d'autres disent vieux style, mais au fond, il n'a pas d'âge.
Non, il n'a pas d'âge, puis d'ailleurs, pour moi, le vieux style, ça n'existe pas, puisque nous sommes en 2014, et dans cette émission, on va se promener dans les 22 premières éditions du Jazz Band Ball. D'ailleurs, ce que nous venons d'entendre a été enregistré sur la scène du Jazz Band Ball, l'édition 70. Alors, je raconte, c'était quand même un sacré paradoxe, parce que non seulement il était anarchiste, anarcho-syndicaliste, libertaire, fiché, difficulté d'aller aux États-Unis, il y a quand même allé à Nouvelle-Orléans, mais enfin, ça n'a pas été tout seul. Bref, il était en plus transporteur de fonds.
Et oui, c'était un homme plein de paradoxes.
Voilà. Il travaillait à la Brinks, il était armé, de 4h du matin à 11h du matin, et il me disait, moi je fais ça parce qu'à 11h, pour moi, la vie commence.
Et finalement, la mort n'est pas arrivée à cause de son métier, alors tant mieux.
Il nous a quittés en 2012, à l'âge de 81 ans, et c'était pas la faute d'une balle perdue lors d'un hold-up. Il est mort, non sans avoir réalisé un des rêves de sa vie, qui était qu'il y ait à Paris une voix portant le nom de Louis Armstrong. Et c'est lui qui est arrivé à ce qu'on inaugure en sa présence, il y a déjà quelques années, la place Louis Armstrong dans son 13e arrondissement, où nous voisinions, c'est comme ça qu'on le... Vous le connaissez assez bien. Et pour nous, le deuxième orchestre qui nous vient à l'esprit en pensant au Jazz Band Ball, c'est le fameux Sharkey & Co, qui était une bande d'individus totalement volcaniques et qui était un orchestre où les tempéraments étaient tels et les débats tellement suraigus qu'il était considéré par ses membres comme en état de dissolution permanente.
Et ça continuait quand même.
Ça continuait quand même.
Vous allez en avoir un exemple assez amusant, puisque nous allons vous passer Faux départ sur Kansas City Kitty, ce qui veut dire que les musiciens n'étaient pas d'accord sur les départs. Et puis après, on aura le vrai Kansas City Kitty. Voilà.
Alors cet ensemble est devenu historique. Quand on pense à chacun, on pense souvent à cet épisode qui s'est passé sur scène, hein, naturellement.
Sorry.
Ça se passait complètement en direct, devant un public totalement déchaîné. Les gars, finalement, ils s'en sont bien sortis. Hein, parce qu'ils auraient pu recevoir des tomates. Hein.
Là, Jazz Benbow, au bout de quelques années, a dû aller à la Mutualité.
Qui était plus grande.
Qui était beaucoup plus grande, qui n'était pas loin de là. Et à la Mutualité, il y avait quelque chose comme 2000 places assises qui étaient toutes occupées. Il y avait un millier d'individus surnuméraires qui étaient assis par terre, dans les escaliers, autour de la scène, pendus au balcon.
On avait l'impression de voir des grappes humaines agglutinées dans des endroits improbables.
Depuis la scène, on avait l'impression qu'on avait jusque sur les murs. Et une ambiance absolument incroyable. Et là, c'était volcanique. Et cet orchestre de Charquet, deuxième coup de chapeau, ça s'appelle...
Original Tuxedo Rag. Les morceaux qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose de très frappant, c'est que c'est à la fois très entraînant, très joyeux, fort en même temps, et ça c'est la caractéristique des orchestres Nouvelle-Orléans de là-bas.
D'ailleurs, les gens qu'on entend avaient une culture du jazz énorme. Et pourtant, ils étaient très jeunes. Et en plus, ils étaient généralement autodidactes et généralement amateurs. C'est une période de bouillonnement très intéressante parce que finalement, tous ces gens-là, ils sont devenus professionnels ou pas. La plupart jouent encore.
Eh bien justement, vous avez entendu le niveau que ces gens-là avaient. Tout jeunes, mais ça jouait, hein.
Ah oui, ça, pour jouer, ça jouait. Une grande figure a été à l'époque, et malheureusement, il est mort pas très âgé, c'était le clarinettiste Pierre Atlan. Pierre Atlan, n'était pas un musicien professionnel. Il avait mené toute une carrière d'amateur et il avait remplacé Claude Luther dans le fameux orchestre de l'Orienté qui a changé de nom à ce moment-là et est devenu le High Society Jazz Band. Alors évidemment, un des orchestres qui vient à l'esprit quand on parle du Jazz Ben Bull, quand on évoque le Jazz Ben Bull des premiers temps, c'est cet orchestre-là qui en a été également un des piliers. Comme pour les Lorientais, le répertoire était fondé sur celui des King Oliver des années 20, de la première grande série de Creole Jazz Band que nous avons souvent évoqué dans cette émission. Et voici un extrait de ce répertoire qui s'appelle
« I ain't gonna tell nobody ».
Thank you.
Ça, par rapport à Charquet, c'était la génération d'avant, celle qui avait découvert le jazz dans les années 40. Alors, il y a un côté vieux sage, quand même. Et je dois dire que la High Society, qui se produisait à l'époque en grand uniforme, comme là-bas, il avait de l'allure. Et le clarinettiste Pierre Atlan, nous l'avons retrouvé lors du dernier Jazz Bond Ball de la première série, appelons ça comme ça, puisqu'il y a une très longue interruption.
La 22e édition.
La 22e, revenue à la mairie du 5e, parce que les grands jours de la mutualité étaient alors passés. D'ailleurs, c'est pour ça que le Jazz Bond Ball s'est arrêté si longtemps. À la tête d'un orchestre qui s'appelait les Blue Doctors. Et les Blue Doctors, c'est un petit orchestre qui jouait le répertoire des années 20. C'est très très vaste le répertoire des années 20. Là, vous allez entendre un morceau de Clarence Williams, illustré en son temps par Louis Armstrong, et qui s'appelle...
Picking on your baby.
I suppose you know now why it's so. Every hour in the day, when they get together, they go from bad to worse instead of getting better. Or they pick in on your baby, 'cause I'm a big guy.
Marcel Blanchard la trompette, mais le rôle de Louis Armstrong, chanteur, était tenu par Pierre Atlan lui-même. Et le vocal de cette famille ne s'est pas perdu, puisque à l'heure actuelle, Pauline Atlan, la fille de Pierre, est une des meilleures chanteuses de jazz française. Si vous la voyez passer avec son petit orchestre,
allez-y,
n'hésitez pas une seconde.
Il faut maintenant qu'on vous parle de Jean-Pierre Daubresse, parce que c'est quelqu'un de très très important pour le jazz handball. Puisque c'est lui qui l'a recréé.
C'est lui qui l'a ressuscité après sa disparition en 85. Et le Jazz Benbow l'a donc repris depuis 2012. Nous sommes maintenant bientôt à la troisième édition de la deuxième série.
Si vous avez le plaisir d'entendre ces extraits en direct, c'est parce que Jean-Pierre Daubresse les a repris, numérisé, et que ce sont maintenant des CD.
C'est vrai que son rôle a été très important au point de vue archive, et pas que pour ce que vous avez entendu là d'ailleurs. Et c'est vrai aussi que Jean-Pierre Daubresse, tout jeune, il était déjà dans le Jazz Benbow, écoutant, prenant des notes, en parlant à la radio et dans la presse.
Retour aux premières années du Jazz Benbow avec un quartet.
Si le Jazz Benbow a une vedette, une sorte de personnage central, c'était Irakli. Irakli a découvert le jazz à l'âge de 16 ans.
Et c'était l'amoureux absolu du style Armstrong.
Oui, l'état de grâce lui est venu du fameux St. James Infirmary de Louis. Et depuis, et c'est vrai, Irakli joue, collecte, écrit, boit, mange et dort avec Louis Armstrong. Et même certaines nuits, je pense, Louis Armstrong est sous l'oreiller. Il n'y a qu'à l'entendre d'ailleurs pour s'en convaincre, c'est absolument flagrant. Il a eu une très longue carrière, Irakli. Il joue toujours, naturellement, rassurez-vous. Mais sa carrière a été jalonnée de grands honneurs, de festivals, de prix. Alors que c'est un parfait autodidacte. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout académique. Et il y a même une anecdote à ce sujet. Un jour, il s'est mis en tête d'aller apprendre la technique de la trompette comme il faut avec un jazzman, lui, très technicien et excellent d'ailleurs également, qui s'appelle Patrick Artero. Alors, ils ont commencé à jouer. Au bout de 10 minutes, Artero lui a dit non. On arrête parce que je vais complètement te mettre en l'air ta manière de jouer qui est unique. Après tout, pourquoi vouloir jouer comme tout le monde alors qu'on joue comme personne ? Tu restes comme tu es, c'est très bien comme ça. Et c'est la seule leçon de trompette qu'a jamais pris Irakli. Elle a duré 10 minutes et elle a mené à une sorte de statu quo.
Et ça, certains professeurs devraient en prendre de la graine parce qu'il faut respecter l'élève.
Irakli a pas mal joué avec les Jazzomaniacs et le quartet que vous allez entendre, c'est juste 4 membres des Jazzomaniacs avec Irakli en vedette, ainsi que Marc Richard, le saxo-clarinettiste, dans un morceau de Clarence Williams aussi qui s'appelle
Cushion Foot Stomp. Thank you. Vous avez entendu tout à l'heure, bah, c'était souvent des orchestres parisiens. Il y avait vraiment une mouvance Nouvelle-Orléans à Paris. Mais en province, il y en avait d'autres. Alors on peut dire que le Jazzman Ball, il y avait à peu près, sur la petite vingtaine d'orchestres qui ont joué dans les premiers Jazzman Ball, que les musiciens de province, c'était un quart à peu près.
Oui, un quart, peut-être quelquefois un tiers avec quelques étrangers qui faisaient le voyage. Mais de toute façon, il fallait faire le voyage, puis il fallait se juger prêt à faire le voyage. C'était quand même une sacrée épreuve que de se retrouver sur cette scène-là, vraiment, oui.
Si les gens n'étaient pas contents, ils criaient « Dehors, allez-vous-en !»
Oui, ça se passait très mal, et puis alors en plus...
ils jetaient des choses.
J'ai vu un musicien suisse qui avait eu l'idée, pourtant excellente, de monter du jazz avec le répertoire de Charles Trenet. Ça n'a pas plu au deuxième balcon. Le berlingot de lait est arrivé sur scène dans les 10 secondes, avec d'autres. Il y avait même qui faisait, comme on était dans un quartier où il y avait pas mal de fruits et légumes, il y avait de la tomate, il y avait tout ce qu'il faut. Ah mais ça rigolait pas, qu'est-ce que vous croyez ?
Ça rappelle ce que racontaient les textes du 19e siècle où les gens qui étaient tout à fait en haut des théâtres, qu'on appelait le poulailler, parce que c'était comme des poules par là-haut.
Et ça s'appelait aussi le paradis.
Et aussi. Le paradis, ces gens-là, s'ils n'étaient pas contents, eh ben, ils le faisaient savoir. Pratiquement de la même façon. Et on peut dire que dans le Jazzman Ball, c'était une sorte de résurgence de cette liberté du spectateur.
Et puis de l'artiste qui prend ses risques. En tout cas, l'orchestre qu'on va entendre maintenant, les Hot Peppers de Nîmes, ils avaient déjà une bonne réputation quand ils sont venus au Jazzman Ball. Et les voici dans un morceau qui s'appelle...
Betty, chérie... Thank you.
c'était les Hot Peppers. Eh bien, ces gens-là, ils ont un goût pour le mot « hot ». Et c'est vrai que c'était mis à toutes les sauces à l'époque. Hot, ça voulait dire, bien sûr, vous le savez, chaud.
Ah ben, le jazzot, c'est le jazzot. Hein.
Voilà, c'était très accolé au mot jazz, hot.
Et alors, comme le patron des Hot Peppers, Michel Bastide, à l'époque, soit étudiant en médecine, soit déjà jeune ophtalmo, je ne sais pas, mais qui est totalement la cheville ouvrière de ces Hot Peppers, à Michel Bastide, il a envie de faire quelque chose de plus pointu et il monte autre chose qui s'appellera le...
Hot Antique. Jeu de mots, oh là là!
Oui, et ils font une bonne rencontre, les Hot Antiques, à la personne de Jabbo Smith, qui est un trompettiste de la grande époque des années 20, un trompettiste noir qu'on avait voulu monter en épingle pour faire concurrence à Louis Armstrong à l'époque de Hot Five, c'est te dire.
Oui, c'était une affaire entre les maisons de disques et tout ça. Et puis finalement, vous savez, c'est difficile hein, de faire concurrence à Louis Armstrong. Hein.
Difficile, surtout quand on a 19 ans et qu'on a un style qui passe ou qui casse. Oui. Mais les disques sont intéressants de cette époque-là de Jabbo Smith. Toujours est-il qu'entre-temps, il avait fait une carrière un peu en dancy et... Rencontrant les Hot Antiques dans un festival, ils décident de faire cause commune. Et Jabbo Smith a beaucoup appris aux Hot Antiques qui se sont présentés l'année d'après, donc en 80, sur la scène du Jazz Ben Bowl, que vous allez d'ailleurs entendre, parce que tous les enregistrements de ce soir n'ont pas été faits au Jazz Ben Bowl, parce que, bon, nous ne sommes pas magiciens. Mais là, nous y sommes, et en 80, vêtus d'une salopette à la Coluche, les voilà donc sur la scène du Jazz Ben Bowl, et ils jouent un morceau de Louis Armstrong qui s'appelle...
Beaucoup Jack.
Ce qui veut dire beaucoup d'argent, vu le contexte.
Thank you.
y a un autre orchestre auquel on ne peut pas ne pas penser quand on évoque le Jazz Benbow, première série, c'est...
celui des frères Marcheteau. Alain et Michel, respectivement banjo et tuba. Ça, c'est des musiciens.
Ce sont vraiment des amateurs purs et durs, ayant fait chacun de son côté une carrière professionnelle brillantissime et non musicale. Mais tu vois, c'est partie des gens qui ont commencé du temps où tu devais être étudiant ou un peu avant, et qui n'ont jamais arrêté, boulot ou pas. Voilà, et ça, c'est les vrais amateurs, c'est ceux qui aiment et qui, finalement, dorment assez peu. Hein. Ce Watergate 7 plus 1, dont je ne sais pas qui était le 1, en tout cas, ils ont dû voir arriver quelqu'un qui les a complétés. C'est un orchestre tout à fait remarquable, qui comporte deux cornets et puis un formidable trombone.
Daniel Barda, qui a appartenu au très célèbre orchestre Les Haricots Rouges. Alors là, un musicien tout à fait étonnant. D'ailleurs, vous allez l'entendre.
Alors, il faut savoir que lui, il a fait carrière dans la musique à 100%, puisque parallèlement au jazz, il est également chef d'orchestre.
Classique. Vous allez entendre Cake Walking Babies jouer et chanter.
Lay them down, down.
a pour l'orchestre suivant, eh bien, je ne résiste pas, moi, à vous le présenter, parce que c'est pas les suivants, mais les suivantes. Et oui, c'est un orchestre de jazz féminin. Et je peux vous dire que, comme ça fait pas longtemps qu'elles jouent ensemble, les petites, quand elles arrivent au Jazz Band Ball, elles sont un peu tremblantes. D'autant plus qu'on vous a expliqué.
L'ambiance.
Et oui, qu'on pouvait se faire jeter, comme disent maintenant les jeunes, grave.
Grave, et puis surtout, on se produit sous l'œil de tous les collègues. Il y a ça aussi qui compte.
Qui, oui, qui les regardent d'un air vaguement ironique quand
oui,
même.
Oui, oui, oui. C'est une jungle, le jazz. Le proverbe homo homini lupus y règne, comme ailleurs. Et je me souviens de leur arrivée, très timide, on sentait le trac. Et naturellement, elles étaient en salopette.
Et oui, c'était la mode.
Mais enfin, je m'empresse de dire qu'elles ont très vite abandonné la salopette pour des tenues infiniment plus sympathiques, et qui leur vont d'ailleurs très bien. Et leur nom, le nom qu'elles ont choisi, est très intéressant.
Ah, c'est un très joli nom. Certains l'aiment chaud. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du film où il y avait Marilyn Monroe qui jouait du...
ukulélé.
Absolument. Et qui racontait une histoire tout à fait amusante d'un orchestre féminin avec deux hommes qui s'étaient glissés dans cet orchestre féminin déguisés en femmes.
Les loups dans la bergerie. Alors là, quand même, dans cet orchestre, certains l'aiment chaud, il n'y a vraiment que des demoiselles. Et à leur tête, elles ont une cornettiste de fort tempérament qui s'appelle Kiki Desplats, Marie-Christine, dite Kiki, et qui mène son monde. Hein.
Ah, d'une main dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est énergique.
C'est une très bonne cornettiste, une des meilleures musiciennes que je connaisse dans cet instrument, tout sexe confondu, si j'ose dire. Là, naturellement, l'orchestre en est à ses débuts, mais si vous voulez le voir, parce qu'il existe toujours, si vous voulez voir certains l'aiment chaud en concert, eh bien rendez-vous le 2 mai 2015 à Curemont, en Corrèze, où il y a un petit festival qui les fait venir. Mais là, elles sont à leur début, l'heure est grave, et nous les laissons jouer un morceau de Duke Ellington, très célèbre, qui s'appelle
« Black Beauty ». Les orchestres que vous avez entendus jusqu'à maintenant, c'était 5, 6, 7 musiciens. Hein
il y avait rarement plus. Il y a eu quelquefois invité des orchestres étrangers. Généralement, il y en avait un par Jazz Band Ball. Je me souviens de celui de Prague, par exemple. Mais c'était un petit peu quand même pour voir comment c'était chez les autres. C'était un peu de l'anecdote et il n'y avait pas d'orchestre français, effectivement, sauf exception, hein, qui atteignent une dizaine de musiciens.
Et voilà qu'arrive, au grand étonnement de tous, hein, et quelquefois au scandale de certains,
oh, oui,
un grand orchestre composé de jeunes parisiens. Et ils se sont demandé, ces jeunes, s'ils allaient être accepté par le public du Jazz Band Ball.
C'était un big band qui s'appelait le Jazz de Pique, et où je tenais personnellement le poste de troisième trompette. Et notre chef d'orchestre, qui était d'ailleurs le plus jeune, qui avait une vingtaine d'années, Jean Rotman, nous annonce à une répétition un jour, nous sommes inscrits au prochain Jazz Band Ball. Alors là, il y avait un grand frisson, parce que c'était l'époque mutualité, hein, c'était la grande époque la plus agitée. Et en plus, on était carrément 18.
Oui, c'est pas la même chose que les...
Puis le répertoire n'était pas Nouvelle-Orléans, alors qu'on était, attention, dans un festival organisé par la FAJNO, Association Française des Amateurs de Jazz Nouvelle-Orléans. Et il y avait des gardiens du temple, et ça rigolait pas. Le débat était sans cesse relancé, bouillonnant. Est-ce que c'est bien de mettre trois trompettes? Ou même la présence de quelques saxos, quelquefois, faisait scandale. Bref, on arrive là-dedans, et ça a été une soirée extraordinaire, parce qu'en fait, ça a très bien marché. On a été très bien reçus par le public qu'il y avait là, de manière assez massive. Et dans une feuille puriste de l'époque, quelqu'un a grincé que décidément, c'était l'entrée de l'artillerie lourde au Jazz Band Ball. Enfin, nous vous laissons juge. Voici le jazz de pique dans Jazznocratie.
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.
Thank you.